le père célébrait cette fête, que l'enfant posait les questions. La fidélité du père qui provoquait ces questions. À propos de ce monument, les questions sont posées quand l'enfant voit le monument. Et le monument avait été construit à Gilgal. Et pour cela, il fallait que le père, avec sa famille, revienne à Gilgal. Et c'est, bon, la fidélité des parents, le fait que les parents vivent vraiment ce qu'ils prétendent être, qui provoquera les questions des enfants. Et quand l'enfant pose cette question, que signifie pour vous ces choses ? Il y a comme quelque chose qui sonde le cœur. Qu'est-ce que ça signifie vraiment dans votre vie ? Et dans le livre de l'Exode, toujours dans ce dialogue entre parents et enfants, quand il s'agit de la fête des pains sans levain, le père peut dire à l'enfant, c'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait. C'est en réalisant ce que l'Éternel a fait pour lui, personnellement, qu'il peut ainsi instruire son fils, non seulement par des paroles, mais par sa vie.
Lorsque les croyants sont placés en présence de la table du Seigneur, en présence du seul pain qui est sur cette table, est-ce que cela ne parle pas à leur cœur de cette unité du peuple de Dieu et aussi de cette identification qui est la nôtre avec Christ? Il serait bon que tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas de désirer effectivement répondre au désir du Seigneur en s'approchant de sa table pour la fraction du pain, pour participer au mémorial de ses souffrances et de sa mort, mais aussi pour rendre témoignage à cette table de l'unité du corps de Christ sur la terre, il serait bon qu'il s'interroge aussi. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 10, procède aussi par interrogation. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? C'est un témoignage devant le monde, mais c'est aussi un témoignage pour les croyants, comme c'est Pierre l'était.
Il dit, en 1 Corinthiens 10, l'apôtre, je parle comme à des personnes intelligentes. Donc, nous avons à comprendre ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons. Nous sommes responsables de comprendre le sens profond des signes que le Seigneur nous a donnés. Pas pour accomplir un acte formel comme ça se fait dans la chrétienté, quelque chose qui est selon les cérémonies que l'homme aime, mais quelque chose qui parle profondément au cœur, il ne fera que si nous en comprenons le sens.
Nous aimerions préciser ici quelque chose. La lecture du chapitre 22 du livre de Josué pourra être utile à chacun lorsque nous voyons justement comment les parents sont invités à porter leurs responsabilités. Les responsabilités doivent être portées d'une manière heureuse. Les parents portent leurs responsabilités d'une manière heureuse lorsqu'ils ont le souci de réaliser les choses qui sont écrites et non pas une ressemblance des choses qui sont écrites. Dans le chapitre 22, nous trouvons justement cette différence entre ceux qui ont fait le choix de se déterminer pour passer au-delà du Jourdain pour réaliser les choses qui étaient écrites en entrant véritablement dans la pensée de Dieu, et ceux qui n'ont pas fait ce choix-là, et qui ont regardé vers la terre, qui ont fait un autre choix, mais qui cependant, appartenant à l'Éternel, ont voulu aussi que cette relation leur demeure et qu'elle soit établie pour leur descendance. Alors, ils ont dressé aussi un autel de grande apparence, la ressemblance de l'autel de l'Éternel, mais il est dit, outre l'autel de l'Éternel. Ils ont bâti un autre autel. Et alors,
Nous voyons les questions dans ce chapitre 22. Et le souci de ceux qui sont là et qui ont bâti cet autel, la ressemblance de l'autel de l'Éternel, et qui disent, nous ne voudrions pas que vos fils disent, vous n'avez pas de part, vous n'avez rien de commun avec l'Éternel, rien de commun avec nous dans ces choses-là. Alors il y a un autel qui est simplement la ressemblance pour le cas où la descendance viendrait à se poser des questions. Nous saisissons bien par la lecture de ce chapitre quelle est la véritable position qui correspond à la pensée de Dieu. Nous avons là une responsabilité des parents. Une autre chose. Nous avons lu dans le chapitre 3 comment il fallait garder une distance. N'en approchez pas. Parce que c'est en suivant l'arche et en maintenant cette distance que vous connaîtrez le chemin. Et ensuite, nous trouvons au chapitre 4 cette responsabilité de communiquer le sens des choses qui ont été vécues, les circonstances qui ont été vécues, en les expliquant. Dans le chapitre 18 du livre de la Genèse, nous avons un passage que nous aimons souvent rappeler, où l'Éternel parle par ses paroles, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, car je le connais, et je sais qu'il enseignera à ses fils après lui, etc. » Et alors, en associant ces deux passages, nous trouvons clairement que ceux qui entrent dans la pensée de l'Éternel et qui ont le souci de communiquer les choses que dans sa grâce l'Éternel leur a communiquées, entrent en même temps dans la pensée de Dieu. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» En suivant, vous connaîtrez le chemin, car vous n'avez jamais passé par le chemin ci-devant. Et alors, nous avons là un autre côté de la responsabilité, demeurer près de son cœur, entrer dans ses pensées, communiquer les choses que dans sa grâce il nous a appris, et nous trouvons comme un chemin ouvert, l'Éternel nous faisant entrer dans les choses qu'il va faire et dans le sens des choses qu'il fait.
Dire maintenant quelque chose de légal. Dans ce lieu où devaient être dressées les 12 pierres, mémorial, visible, rappel, une œuvre accomplie une fois pour toutes. Gilgal était un lieu où on devait revenir. Revenir avant chaque combat. Quand nous voyons les enfants d'Israël retourner à Gilgal, ensuite c'est une victoire, la suite du livre. Quand ils ont négligé de le faire, comme le combat contre Haï, par exemple, pas question de Gilgal, chapitre 7, c'est la défaite. Gilgal, c'est le lieu de la circoncision, c'est-à-dire de l'application pratique de la mort. Et donc, bien, le tenez-vous vous-même pour mort. C'est le rappel constant de ce que Dieu a fait une fois pour toutes, tenant la chair dans la mort. C'est la mortification pratique. Quelquefois, on a peine à comprendre, c'est une difficulté pour saisir l'affranchissement. On ne peut pas concilier le « vous êtes mort » et le « tenez-vous vous-même pour mort ». Alors, il y a une apparente contradiction. Si l'on est mort, on n'a pas à se tenir pour mort, mais inversement. Mais c'est le sens du mot « mort » qui n'est pas toujours compris. Mort ne signifiant jamais, dans l'Écriture, inexistence, disparition totale. La mort, c'est l'absence de relation. Quand nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, nous existions bien. Les morts qui se tiendront devant le grand trône seront bien là, existants. Et la seconde mort est une existence éternelle, loin de Dieu, chose bien solennelle. Mais c'est simplement la mort avec Christ, c'est l'absence définitive de relation entre l'homme en Adam et Dieu. C'est que l'homme en Adam n'a plus rien à faire valoir. Il est là, la vieille nature est toujours là, et nous l'aurons tant que nous serons sur la terre, mais elle n'a pas de relation. Et dès qu'elle cherche à se faire valoir d'une manière ou d'une autre, je te replace dans la mort. C'est là ton domaine, c'est là ta place. Tu n'as pas à te manifester. Pourquoi le retour à Gilgal nous parle de cela. le rappel permanent sur le lieu où les 12 pierres sont dressées, que la victoire sur la mort a été remportée, que la crucifixion a eu lieu, que le vieil homme est là, comme cloué à la croix de Christ, qui n'a plus rien à faire mal. Alors, dans la réalisation de cette mission, peut-être vainqueur.
Il a passé les 12 pierres qui avaient été tirées du lit du fleuve. Ces pierres rappelaient d'un côté que Christ, vraie arche de l'Alliance, était entré dans la mort et le jugement. La mort et le jugement passèrent sur ton âme. Le Seigneur a pu dire dans les psaumes 69 et autres, Jonas 2, que les eaux lui sont entrées jusque dans l'âme. Il était enfoncé dans une boue profonde, il n'y avait point de prendre pied. Mais ce lieu était un lieu qui était un passage à sec pour les fils d'Israël, c'est-à-dire pour nous chrétiens spirituellement parlant. À connaître le chemin de la vie, le chemin de la vie pour le chrétien était le chemin de la mort pour Christ. On en garde le souvenir. Les pierres ont été tirées du lieu où se tenaient les pieds des soins des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. C'est là le souvenir de la mort de Christ et en même temps le souvenir de du passage à travers la mort en vie pour la vie pour le chrétien. C'était des pierres en mémorial. Les pierres étaient visibles. Étaient visibles à tous. Ils étaient donnés en témoignage publiquement et où, au lieu où pratiquement la mort avec Christ s'accomplissait dans la pratique pour nous, Bilgal. Lorsque ce témoignage était réalisé par la foi, pour la foi, alors on pouvait revenir au bord du fleuve de la mort et contempler spirituellement et par la foi, les pierres qui étaient maintenant cachées dans le lit du fleuve. Les deuxièmes pierres, les 12 pierres, à la suite au chapitre 4, le verset 9, n'étaient visibles que pour la foi. Elles étaient maintenant recouvertes par les eaux du fleuve. Et l'ordre moral pour nous est extrêmement important. Nous ne pouvons pas pratiquement revenir au bord du fleuve de la mort de Christ et nous souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Les chrétiens le réalisent davantage et l'Église aussi, si nous n'avons pas auparavant passé à Gilgal. Les pierres étaient d'abord sorties du lit du Jourdain et placées à Gilgal, ensuite 12 pierres étaient placées là, au centre même du lit du fleuve. Dans 1 Corinthiens 11, où la scène du Seigneur est vue dans son caractère de mémorial essentiellement, et tout de suite après, il nous est dit en contraste de la responsabilité qui s'attache à se souvenir de la mort de Christ, ainsi que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. On a appelé tout à l'heure l'attention de nos chers jeunes sur l'occasion qui est offerte à chaque croyant, vrai croyant, de se souvenir de Christ, dans sa mort, de se souvenir de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il ne faut pas attendre d'être meilleur pour cela. La seule condition qui soit donnée, c'est de s'éprouver. C'est le jugement de soi-même qui nous rend, pour ainsi dire, propre pour nous souvenir de la mort de Christ d'une manière qui ne soit pas indigne. 1 Corinthiens 11 nous dit qu'on peut participer à la scène du Seigneur d'une manière indigne. Ensuite, le gouvernement du Seigneur s'exercera à l'égard de celui qui fait ainsi. La chair n'est pas améliorée, elle est simplement placée dans la mort. Il s'agit pour nous de réaliser dans une mesure croissante que, effectivement, nous tenons notre chair pour porte. Elle a été judiciairement, pour ainsi dire, condamnée à la croix. Mais notre responsabilité, c'est pratiquement de ne pas permettre qu'elle porte des fruits, qu'elle soit active en nous maintenant. Il y a quelque chose de comparable dans le souvenir de la Pâque, puisqu'en définitive, la Pâque et la scène vont ensemble. C'est Dieu qui voyait le sang. Pour les Israélites, point essentiel, c'était d'attacher foi à la parole donnée, à la promesse qui était faite. Et si on était dans la maison et que le sang était placé sur les poteaux et sur le linteau, Dieu voyait le sang et que l'ange destructeur passerait par-dessus sans toucher les maisons sur lesquelles se trouvait le sang. C'était l'estimation que Dieu faisait du sang qui exprimait la valeur du sacrifice et non pas l'estimation que l'Israélite pouvait faire, l'estimation que nous pouvons faire, nous,
de la valeur de l'œuvre du Christ ne peut être que partielle, humaine, imparfaite. Mais pour Dieu, l'œuvre de Christ est parfaite. Alors, pratiquement, pour nous, pour les jeunes en particulier, pour tous les âges de la vie chrétienne, il faut se reposer sur l'œuvre de Christ qui est parfaitement acceptée par Dieu. Et remettre à Dieu, pour ainsi dire, l'estimation de la valeur de l'œuvre de son Fils. Mais en même temps, dans le jugement de soi-même, bien nous trouvons le secret pour ouvrir les affections de nos cœurs en effusion envers Christ, qui a tout fait pour nous, et qui a traversé ce fleuve de la mort pour que de l'autre côté de la mort, nous connaissions sa vie, sa victoire et sa résurrection.
Dans l'histoire du peuple de Dieu. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Je suis crucifié avec Christ. C'était le cas de l'apôtre tous les jours, portant toujours, partout dans le corps, le mourir de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans ma chair mortelle. Dans le livre de Josué, rapidement, au chapitre 4, nous avons donc verset 19, ils campent à Gilgal lorsqu'ils sont montés du Jourdain. Au chapitre 5, verset 10, après la circoncision, ils montent et ils habitent, ils campent à Gilgal. Chapitre 5, verset 10. Si nous tournons quelques pages, nous allons voir ce qui découle, ce qui est lié à Gilgal comme conséquence pratique dans le chapitre 10. Au verset 6, les hommes de Gabaon envoyèrent à Josué au camp, à Gilgal. Le camp est donc bien à Gilgal. Verset 7, Josué monta de Gilgal, tout le peuple de guerre. Verset 9, il monta de Gilgal toute la nuit. Et que trouvons-nous? Verset 14, fin du verset, car l'Éternel combattait pour Israël. C'est l'homme qui s'est présenté devant Josué comme chef de l'armée de l'Éternel, qui les conduit de victoire en victoire. Et nous avons verset 15, Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Mais faisons une petite application en relation avec l'histoire ecclésiastique. Israël n'est pas resté longtemps à Gilgal. Dans ce même livre de Josué, après Gilgal, nous avons Silo. C'est là que la maison de l'Éternel, que le tabernacle, a été érigé. Et ensuite à Gabaon. Et ainsi, dans l'histoire du peuple, et Gilgal et Silo ont été abandonnés. Et Dieu devra dire, venez voir ce que j'ai fait à ma maison, dans Josué, dans Jérémie 7, ce que j'ai fait à ma maison, à Silo, comment je l'ai abandonné, car il allait abandonner sa maison Jérusalem, de la même manière. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas resté à Gilgal. Le peuple est devenu, ce que le prophète Amos nous dit, c'était la page 1834, et il y en a quelques noms cités, qui nous montrent bien toute la distance parcourue depuis le commencement. N'allez pas, chapitre 5, verset 5 du prophète Amos. Nous savons qu'Amos se trouve sur la scène au jour d'Ozias, roi de Juda, qui devient lépreux. Nous, avec Ozias, nous sommes à la moitié du temps et à la moitié de la lignée des rois. Si l'on veut prendre la peine de consulter la table chronologique, on verra que quand nous sommes parvenus à Ozias, il y a 2 siècles que la royauté a été instituée, et il va encore se passer 2 siècles avant que sa déchéance entraîne sa mise de côté. Et Ozias est le 10e des 20 rois. Il est donc à la moitié et du temps et de la lignée des rois qui se sont succédés sur le trône de David. Et c'est déjà maintenant l'annonce d'un État qui doit inévitablement amener le retranchement, car Israël est devenu un système. Hélas, comme l'Église professante, devenu ce vaste système, et tout système, toujours, dans tous les cas, sans exception, tout système se termine par le retranchement et par le jugement, Dieu épargnant sans doute un résidu, un petit résidu. Si l'Éternel ne nous eût conservé un petit résidu, Ésaïe 1, nous aurions été comme Sodome et Gomorre, c'est-à-dire entièrement livrés au jugement, passés au feu du jugement. Eh bien, à la moitié du chemin de l'histoire de Judas, Amos nous dit, chapitre 5, verset 4, « N'allez pas à Gilgal. N'allez pas à Gilgal. » N'est-ce pas étrange d'entendre un prophète nous dire « N'allez pas à Gilgal. » Mais c'était pourtant un lieu si remarquable où Josué revenait au camp, là à Gilgal, et où nous repartions pour des victoires si retentissantes. Et maintenant, le prophète doit dire « Mais n'allez pas à Gilgal. » Pourquoi ? Parce que c'est un lieu qui a perdu toute signification en rapport avec ce qu'il était au commencement. Au contraire, il dira ne passez pas à Beersheba, Gilgal ira certainement en captivité. Et Bethel, la maison de Dieu, sera réduite à rien. Quel avertissement saisissant pour Israël et pour nous, car Gilgal, c'est l'église du commencement. Là où la chair était mise de côté, et on voit avec quelle énergie l'Esprit de Dieu agissait dans ces jours-là, souvenons-nous du cas d'Ananias et de Saphira. Mais peu de temps après, quelques années plus tard, qu'est-ce que Paul doit dire à l'égard des Philippiens? Je le dis même maintenant, pleurons. L'état de Gilgal du commencement est déjà abandonné. Ils sont devenus, dit-il, beaucoup sont devenus, non pas des ennemis de Christ, car nous ne trouvons pas cela dans le prophète Amos, bien entendu, mais ils sont devenus des ennemis de la croix de Christ. Et Paul devra dire dans l'Épître à Timothée, tous m'ont abandonné. Celui qui peut dire, portant toujours, partout, dans le corps, le mourir de Jésus, pour moi vivre, c'est Christ. Là, c'était plus désirable. Tous m'ont abandonné, sauf quelques-uns fidèles autour de lui, mais un bien petit nombre.
Juges chapitre 2, premier verset, nous voyons que l'ange de l'Éternel remonte de Gilgal à Bochim. C'est donc qu'il s'y trouvait. C'est là que le chef de l'armée de l'Éternel donnait ses instructions au peuple. Ça fait partie de cette efficace de Gilgal. On réalisait la place du peuple, sa faiblesse, et en même temps on trouvait la force. La force dans les instructions reçues de ce chef de l'armée d'Éternel qui restait là. C'était sa place. Et pour le rencontrer, il fallait aller à Gilgal. Alors au chapitre 2 des Juges, au moment où le temps des victoires est passé, où le peuple a donné tant de signes de déclin, on nous est dit l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bochim. Bochim, c'est le lieu des larmes, de la confusion, de l'humiliation. L'ange de l'Éternel, pour ainsi dire, lassé d'attendre le peuple. Il a attendu, le peuple ne vient plus à Gilgal. Il a perdu le secret de la victoire. Alors l'ange de l'Éternel lui-même quitte ce lieu béni. Et on comprend alors ce qui nous a été lu dans Amos. C'est que n'allez plus à Gilgal, ce n'est plus la peine. Vous n'y rencontrerez plus l'ange de l'Éternel.
Chapitre 4, verset 4, que la transgression était multiple.
Le verset est vraiment terrible, vous pouvez partir en Gilgal.
Si, comme on le pense, c'est le même Gilgal, Élisée ne veut pas du tout demeurer à Gilgal. Parce qu'il a compris d'avance ce que Amos dira, que vais-je faire à Gilgal ? Il a perdu toute signification morale. L'Éternel est vivant, je ne te laisserai point. Il dit, non, je ne reste pas à Gilgal, je t'accompagne. Tu es le seul qui doit être suivi comme étant le dépositaire du témoignage de Dieu dans ce jour-là. Et de même, Bethel est associé dans le prophète Amos et répondre à la question, à l'intervention intéressante de notre frère d'Arceau, Élisée ne restera pas plus à Bethel qu'à Gilgal, et ni à Jéricho. Tous ces lieux si remarquables du commencement ont perdu toute signification pour l'homme de Dieu.
que le pape s'est lassé de rester à Gilgal. Et on verra que la seconde partie du livre de Josué nous montre essentiellement les mentions de Silo et de Sichem. À ma connaissance, je crois que Gilgal n'est pas mentionné dans les, 13, dans les chapitres 13 à 24. Mais si on s'appuie sur le chapitre 18, on nous est dit que le tabernacle a été dressé à Silo. Mais au moment de l'histoire des juges, on verra que l'arche était à Bethel. L'arche et le tabernacle étaient séparés. Et la conclusion évidente, c'est que l'arche a été prise au début du livre de Samuel. Ichabod, la gloire s'en est allée. Alors, lorsque le peuple a cessé de monter à Gilgal, eh bien, il a évoqué le lieu des pleurs. Et on s'est aperçu maintenant que Dieu n'était plus avec son peuple pour lui donner des victoires, que autrefois, le secret de la victoire était à Gilgal, mais c'était trop tard. Bochim n'est pas le lieu de la restauration et de la repentance. On le trouve, ce travail de repentance, et pour tous les réveils, pour toutes les situations, dans les croyants et dans les assemblées, le seul chemin, c'est la repentance, la prière et l'humiliation. On le retrouve à Mitzpah, au début du livre de Samuel. Dans l'ordre, Gilgal abandonné, conduit à Bochim, le lieu des pleurs, mais l'eau répandue dans la présence de l'Éternel, c'est à Mitzpah. Et à Mitzpah, véritablement, le peuple est délivré. On retrouve au début du livre de Samuel quelque chose de comparable à ce que le peuple avait connu dans les temps les plus heureux du début du livre de Josué.
Merci beaucoup.
Et Josué prit tout ce pays, la montagne et tout le midi, et tout le pays Gosen, et le pays plat et la plaine, et la montagne d'Israël, et son pays plat depuis la montagne de Halak qui s'élève vers Seir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne de l'Hermon. Et il prit tout leur roi, et les frappa, et les fit mourir. Josué fit longtemps la guerre à tous ces rois-là. Et il n'y a aucune ville qui fit la paix avec les fils d'Israël, excepté les Héviens qui habitaient Gabaon. Et ils les prirent toutes par la guerre. Car ce fut de par l'Éternel que leur cœur fut endurci pour s'en aller en guerre contre Israël, afin qu'il les détruisît entièrement, sans qu'il y eût pour eux de merci. Car c'était afin de les détruire, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et Josué vint en ce temps-là et retrancha les Anakims de la montagne de Hébron, de Débir, d'Anab, et de toute la montagne de Juda, et de toute la montagne d'Israël. Josué les détruisit entièrement avec leur ville. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des fils d'Israël. Il en demeura seulement dans Gaza, dans Gath et dans Asdod. Et Josué prit tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, selon leur distribution, selon leur tribu. Et le pays se reposa de la guerre. Au verset 6. Et les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunné, le Phénicien, lui dit, « Tu sais, la parole que l'Éternel a dite à mon sujet et à ton sujet, à Moïse, homme de Dieu, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans, quand Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui rapportai la chose, comme elle était dans mon cœur. Et mes frères qui étaient montés avec moi faisaient fondre le cœur du peuple. Mais moi, je suivis pleinement l'Éternel, mon Dieu. Et Moïse jura en ce jour-là, disant, si le pays que ton pied a foulé est à toi pour héritage et tes fils pour toujours, car tu as pleinement suivi l'Éternel, mon Dieu. Et maintenant, voici, comme il l'a dit, l'Éternel m'a conservé en vie ces 45 ans, depuis que l'Éternel a dit cette parole à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant,
Voici, moi, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aujourd'hui fort, comme au jour où Moïse m'envoya. Telle que ma force était alors, telle ma force est maintenant, pour la guerre et pour sortir et entrer. Et maintenant, donne-moi cette montagne, dont l'Éternel a parlé en ce jour-là. Car tu as entendu en ce jour-là que les Anakim y sont, et de grandes villes fortes. Peut-être que l'Éternel sera avec moi, et je le déposséderai comme l'Éternel a dit. Et Josué le bénit, et donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jéphunné. C'est pourquoi Hébron appartient en héritage jusqu'à ce jour à Caleb, fils de Jéphunné, le Kénizien, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Or le nom de Hébron était auparavant Kiriath Arba. Arba était le grand homme parmi les Anakim, et le pays se reposa de la guerre. En chapitre 15, au verset 13, et selon le commandement de l'Éternel à Josué, il donna à Caleb, fils de Jéphunné, une part au milieu des fils de Juda. Kiriath Arba, Arba était le père d'Anak, c'était bon. Et Caleb en déposséda les trois fils d'Anak, Shéchaï et Akiman et Talmaï, enfants d'Anak. Et de là il monta contre les habitants de Débir. Or le nom de Débir était auparavant Kiriath Sefer. Et Caleb dit, à qui frappera Kiriath Sefer et la prendra, je lui donnerai ma fille Aksa pour femme. Et Osnel, fils de Kenaz, frère de Caleb, la prit, et Caleb lui donna sa fille Aksa pour femme. Et il arriva que, comme elle entrait, il l'incita à demander à son père un champ. Et elle descendit de dessus l'âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu ? Elle dit, donne-moi une bénédiction, car tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources du haut et les sources du bas.
Et c'est le fait qu'il obéit dans le premier chapitre. Il est invité à se fortifier pour trois raisons. Et notamment, une des raisons principales, sans doute, c'est la parole de l'Éternel à laquelle il convient qu'il soit soumis. Et nous avons dans le verset 15 du chapitre 11, Josué fit ainsi, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, le secret de la force de cet homme et des résultats qu'il obtient, des victoires qu'il remporte, c'est que c'est un homme marqué, caractérisé par l'obéissance à la parole de Dieu. Rien ne peut nous donner un avantage sur nos ennemis si ce n'est précisément l'obéissance à la parole de Dieu. N'est-ce pas lui, le parfait modèle qui nous en donne l'exemple ? Il est écrit, il est écrit, il est écrit, et l'ennemi doit s'enfuir vaincu. Non pas par le fait que c'est Dieu qui lui parle, mais parce que c'est un homme dépendant et obéissant. Voilà le secret pour la victoire. Josué fit ainsi, il n'omit rien, verset 15, de tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Josué n'obéit pas seulement en partie à la parole de Dieu, mais il n'omet rien de tout ce que l'Éternel a commandé. Obéir à la parole, cela veut dire obéir à toute la parole. Souvenons-nous de Saül, qui apparemment avait obéi à beaucoup de choses, mais il n'avait pas obéi jusqu'au bout. Et quand Samuel l'écoute, l'entend, quelle est la réponse de Samuel ? Il aurait pu dire, oui, c'est à peu près bien. Et répond Saül, Saül, tu as agi follement. Obéir en partie seulement, c'était agir follement. Mais Josué, par contre, n'omet rien. De tout ce que l'Éternel a commandé, Voilà le secret de la victoire. Et tous les détails nous sont donnés dans les versets 16 et suivants qui viennent d'être lus. Le pays, sous ses différents aspects, les plaines aussi bien que les montagnes, que de choses nous avons à exploiter dans le pays de la promesse, les montagnes, la puissance de Dieu, la puissance aussi qui s'élève contre nous, mais tout cela sera assujetti par Josué. Quels que soient les ennemis, quel que soit leur retranchement, Josué va remporter la victoire. Et il fit longtemps la guerre à ces rois-là. Josué est un homme qui persévère, un homme obéissant et qui persévère. Il fit longtemps la guerre à ces rois-là. Et nous savons bien que la guerre ne cessera pas. Déjà, l'Éternel l'a dit dans la première bataille à laquelle Josué a pris part, bataille dont il est le chef, en Exode 17, l'Éternel aura la guerre avec la chair et avec les puissances qui agissent sur la chair de génération en génération. Nous ne serons jamais délivrés, nous ne serons jamais dans une condition où le combat pourra cesser sur la terre. Il faut pour cela que Satan soit brisé sous nos pieds. Mais Paul nous dit, Dieu brisera bientôt Satan sous nos pieds. Il n'y aura plus de guerre au ciel. Mais jusqu'au moment où nous quittons la terre, nous avons à faire la guerre comme Josué l'a fait longtemps à tous les rois ligués contre lui.
Quatre versets premiers. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui enseigne mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. C'est important pour le combat chrétien de ne pas se tromper d'adversaire, de ne pas employer les mauvaises armes. Et qui nous enseignera sinon Dieu dans sa parole, qui est véritablement notre ennemi, et quelles armes nous avons à utiliser? Là aussi nous reportons à l'épître aux Éphésiens. Il nous a dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. On peut extrapoler en disant les circonstances, les personnes, les choses qu'on voudrait modifier. Souvent le chrétien se prend pour adversaire des moyens que Dieu permet finalement pour former sa discipline. Par exemple, lors de la Réformation, nous savons tous ce qu'ont été les guerres de religion. Et là, nous voyons bien qu'il y a eu erreur quant aux adversaires à combattre. Le combat a eu lieu contre la chair et le sang, et nous savons bien quelles conséquences en ont résulté. Donc, Éphésiens 6, verset 10, nous désigne nos vrais ennemis. Notre ennemi véritable qui est Satan et puis ses puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes et qui cherchent à quoi faire. On ne peut pas nous enlever la possession des lieux célestes puisque Dieu nous les a promis et nous les a donnés en Christ. Mais il nous en enlève la jouissance. Voilà donc l'enjeu du combat, c'est la jouissance des lieux célestes. Et nos ennemis qui sont là s'y oppose. Satan cherche par des moyens à lui, il cherche à nous occuper des choses de la terre, il cherche à nous séduire ou à nous faire peur. Il a dans son arsenal un certain nombre d'armes, n'est-ce pas, dont il a l'expérience, connaissant le cœur de l'homme, depuis 6000 ans d'expérience du cœur de l'homme, mais ce sont toujours les mêmes armes. Et la deuxième aux Corinthiens nous rappelle que nous n'ignorons pas ses desseins. Alors nous avons cette armure complète de Dieu, que nous connaissons tous, sujet souvent médité, sur lequel le temps ne permet pas de nous arrêter sans doute, mais elle est à revêtir avant le mauvais jour, pour que le mauvais jour ne nous surprenne pas avec une cuirasse défaillante, avec des armes non revêtues. Voilà les armes que nous avons à utiliser et non pas les armes de l'homme dont nous parle un passage comme 2 Corinthiens 10. Verset 4. Les armes de notre chair ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous voyons là que pour la destruction de forteresses, comme Jéricho par exemple, dans lesquelles l'homme s'enferme pour résister à Dieu, eh bien, ces armes, les armes de la chair ne valent rien, elles sont puissantes, comme le fait ressortir l'expression. Les armes ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. Autrement dit, les armes charnelles sont impuissantes, et celles de Dieu, eh bien, elles sont puissantes. Elles sont puissantes par Dieu. Et voilà les armes que nous avons à utiliser. Armes, justement, Ephésiens 6 nous rappelle qu'elles sont toujours à notre disposition.
Précieux, c'est simplement la lecture. Au verset 31. Qui est Dieu hormis l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Le Dieu qui me sait de force et qui rend ma voix parfaite, qui rend mes pieds pareils à ceux des biches et me fait tenir debout sur mes lieux élevés, qui enseigne mes mains à combattre et mes bras rendent un arc d'airain. Tu m'as donné le bouclier de ton salut, et ta droite m'a soutenu, et ta débonnaireté m'a agrandi. Tu as mis au large mes pas sur moi, et les chevilles de mes pieds n'ont pas chancelé. J'ai poursuivi mes ennemis, je les ai atteints, et je ne me suis pas retourné, je les ai consumés. Je les ai transpercés, et ils n'ont pu se relever. Ils sont tombés sous mes pieds. Et tu m'as sainte force pour le combat, qui a courbé sous moi ceux qui s'élevaient contre nous. Voilà une expérience du roi David. L'ennemi était anéanti. Et l'Éternel l'avait délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Satan. Il a fait une expérience. Eh bien, nous savons que le secret de sa force, c'était véritablement parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu, qui a plu à Dieu. Et comment a-t-il plu à Dieu? Il était obéissant et il était droit de cœur de l'homme.
Avait discerné ces beaux caractères dans la personne de David. Nous l'entendons s'exprimer dans 1 Samuel 25, lorsqu'elle dit au verset 28, « Mon Seigneur combat les combats de l'Éternel, et la méchanceté n'a jamais été tombée en lui. » Et nous voyons également dans 1 Chronique 12, tous ceux qui étaient venus vers David à Ziklag. Il y a là le si beau caractère de ceux qui s'étaient décidés de tout leur cœur pour lui. Sans entrer dans tous les détails de ce riche chapitre, on peut souligner dans 1 Chronique 12, verset 8, il est dit que c'était des hommes. Il se détacha pour se joindre à David dans le lieu fort au désert, des hommes forts et vaillants, hommes exercés pour la guerre, armés de boucliers et de piques. Et leurs faces étaient comme des faces de lions, et ils étaient bons comme des gazelles sur les montagnes. Et puis, nous voyons comment David les accueille au verset 18, et un petit peu plus loin, au verset 21, il dit qu'ils aidèrent David dans ses expéditions, car ils étaient tous forts et vaillants, et ils furent chefs dans l'armée. Le fait qu'ils viennent, on avait nommé par nom pour aller établir David roi. Cela savait discerner les temps, pour savoir ce que devait faire Israël, etc. Et un peu plus loin, à la fin du verset 38, on voit que leur cœur était droit et qu'ils étaient tous d'un saint cœur. Quel enseignement pour nous, la manière dont nous sommes tournés vers le Seigneur et décidés à le glorifier ici.
Dans le détail des les éléments de, l'armure de Éphésiens 6, c'est simplement faire remarquer que la première qui nous est signalée, c'est verset 14 du chapitre. Je vais donc faire ayant saint vos reins de la vérité. Voilà, c'est la vérité pour ceinture, n'est-ce pas, ça évoque pour nos cœurs la force qui découle de la soumission à la parole de Dieu. S'y rejoint la pensée que notre frère a donnée tout à l'heure, quand il dit que Josué n'a rien omis de ce que Dieu lui avait dit. Peut-être tout à l'heure nous dirons un mot de ces géants qui étaient là, qui se sont opposés à la conquête, on peut dire, du pays. Et sans doute pourrions-nous dire que les géants qui maintenant peuvent empêcher le peuple de Dieu de s'emparer, on peut dire, pratiquement, d'entrer en possession de son héritage, n'est-ce pas, l'incrédulité et la désobéissance. Alors que le Seigneur veuille faire que nous ayons dans nos cœurs ce qui était là dans le cœur de Josué, quand il n'a rien omis de ce que Dieu lui avait commandé et il a prospéré, et nous voyons que le pays a été, on peut dire, entièrement soumis sous la conduite victorieuse de son chef, du chef de l'armée.
Il est question ici des combats que Josué a combattus sont une figure pour nous de cette puissance spirituelle qui est dans les lieux célestes, une puissance spirituelle de méchanceté. C'est essentiellement Satan et ses anges. On sait que historiquement, Satan sera chassé des lieux célestes à l'issue d'un combat qui nous est présenté dans le livre d'Apocalypse et qui marquera au point de vue prophétique la fin de la transition entre la première et la deuxième demi-semaine de Daniel. Moralement parlant, spirituellement parlant, le Seigneur Jésus a remporté une victoire décisive et finale sur ses ennemis-là. Colossiens 2 nous dit qu'il les a produits en public, qu'il a triomphé d'elle en la croix. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'actuellement, ses autorités ont encore une puissance. Et Satan et ses anges déchus, cette puissance spirituelle de méchanceté dans les lieux célestes, exercent une puissance pour nous empêcher pratiquement de jouir de nos bénédictions en Christ. Ce sont des ennemis extérieurs mais qui rencontrent en nous un allié permanent qui est la chair. C'est dans la mesure où nous manquons à revenir toujours à Gilgal, c'est-à-dire à appliquer la mort de Christ à la partie tombée de notre être intérieur, de notre être, de l'élément humain, la chair. C'est dans cette mesure-là où Satan à ce moment-là a de la prise et pratiquement nous sommes sans force. C'est une chose grave, une chose solennelle que d'être engagé dans ce combat. Et on a souvent rappelé que l'ennemi ne nous manquera pas, il ne peut pas nous retirer ce que notre salut. En fait, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur l'arme. L'ennemi peut séduire, l'ennemi peut aveugler, et c'est ce qu'il fait à l'égard des incrédules, et trop souvent tristement à l'égard des chrétiens, particulièrement dans le mauvais jour. Ce mauvais jour du chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, c'est dans l'ensemble, tout le temps de l'absence de Christ, et plus particulièrement des moments où la puissance de l'adversaire se fait sentir. Mais ce que l'ennemi peut faire, c'est nous ravir la joie de notre salut, et nous faire pratiquement manquer notre course. Il est bien clair qu'un jour, les lieux célestes seront complètement débarrassés de la puissance de l'adversaire, et que nous serons dans le ciel, dans la maison du Père, exactement comme Dieu le voulait dans ses conseils d'éternité, et comme le cœur du Seigneur Jésus le voulait pour lui-même. Mais quel chemin dans l'intervalle? C'est ce qui rend si solennelle, si importante la course chrétienne, ce qui donne le caractère à ce combat permanent. Il y a à la fois ces ennemis intérieurs, l'ennemi que nous avons en nous, en même tout le temps, jusqu'à la fin, et puis les assauts extérieurs de l'adversaire.
La pression des circonstances difficile et éprouvante que nous ayons à traverser, nous ne sommes jamais dispensés du combat. Combat d'abord contre notre ennemi implacable, le plus dangereux, c'est celui que nous portons en nous, sans doute. C'est notre propre cœur,
se laisser facilement séduire. Mais le combat a aussi un sens collectif. Et un petit exemple, c'est celui de David qui se trouve pourchassé dans des conditions si difficiles, errant d'un refuge dans un autre désert, quand il apprend que les Philistins se sont jetés contre une ville de Juda, eh bien, sa première résolution, c'est de s'en aller pour combattre l'ennemi. Sans se soucier, c'est dans Samuel 23 que ces choses se sont rapportées, sans se soucier de ses propres circonstances déjà si difficiles. D'ailleurs, les hommes de Juda lui disent, voici même en Juda, nous avons peur, et comment irions-nous à Kélila combattre contre les troupes rangées des Philistins? Mais les difficultés, les épreuves par lesquelles David passe ne l'empêchent pas de se dresser contre les ennemis du peuple de Dieu, combattant toujours pour vous. Tout dans l'Épître aux Colossiens, plusieurs expressions relatives au combat chrétien et au combat que nous livrons, tout d'abord par la prière sur nos genoux, combattant par des prières et des supplications. Et Epaphras, qui était un esclave du Christ, combattait toujours pour les Colossiens par des prières, afin qu'ils demeurent parfaits dans la connaissance et la jouissance des pensées de Dieu, pour le maintien de leur héritage. Paul aussi, Colossiens verset 29, combattait selon l'opération de Christ en lui, avec puissance, pour amener tout homme parfait en Christ. C'est un combat incessant de l'apôtre. Chapitre 2, verset 1, je veux que vous sachiez quel combat j'ai pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée et qui n'ont point vu mon visage dans la chair, combattant toujours par des prières, des supplications. C'est la forme du combat chrétien que nous avons à livrer aujourd'hui. Peut-être le verset 20 pourrait étonner quand on le lit et en se demandant, mais comment se fait-il, Dieu ne tente personne. Je ne veux pas devancer le sujet, mais faire une courte remarque sur ce verset 20, sans prétendre que nous avons épuisé la question du combat. Mais à l'égard de ce verset 20, il est dit dans l'Épître de Jacques que Dieu ne tente personne, c'est-à-dire que Dieu ne sollicite personne au mal. Sans doute, nous passons par diverses tentations, diverses épreuves, et il y a les deux sens dans l'Épître de Jacques. Le sens des épreuves, de dispensations par lesquelles Dieu trouve bon de nous soumettre. Nous trouvons cela dans l'Épître de Jacques, chacun a pris connaissance de ces versets, par lesquels nous sommes instruits quant aux voies de Dieu envers nous. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations ou épreuves ou difficultés. D'un autre côté, que nul, quand il est tenté, au verset 13 de Jacques 1, ne dise « Je suis tenté par Dieu ». Là, ce n'est pas la même chose, c'est la sollicitation à céder au mal. Personne ne peut dire « Je suis tenté, je suis sollicité par Dieu à m'avancer dans un chemin contraire à sa volonté ». Il est clair que chacun de nous a bien compris cela. Mais pourtant ici, dans ce verset 20, « Ce fut de par l'Éternel que leur cœur fut endurci pour s'en aller en guerre contre Israël. » Il y a là à la fois la révélation d'un secret, la providence de Dieu, si nous pouvons ainsi parler, et en même temps l'opération secrète de Dieu dans les hommes, connaissant bien la fin d'une chose avant son commencement. Il est clair que ces hommes, ces rois et leurs troupes, étaient ligués contre Israël, animés de cet esprit d'adversité et d'opposition contre Israël, opposition irréductible. De sorte que le temps est venu pour régler tout ce que Dieu avait promis à Abraham, le temps était venu pour la possession du pays, et en quelque sorte Dieu agit dans les cœurs, précipite les choses en produisant ce résultat. Nous avons quelque chose d'analogue dans le premier livre de Samuel au chapitre 2. Cela nous aidera aussi à comprendre ce passage. 1 Samuel 2. Donc, en relation avec la question d'Élie,
les fils d'Élie qui se conduisaient si mal. En Samuel 2, au milieu du verset 25, pour les courter un peu, mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père. On sait que leur père les réprimait, en tout cas les réprimandait pour leur conduite abominable. Ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car c'était le bon plaisir de l'Éternel de les faire mourir. Comment Dieu peut-il trouver un bon plaisir à faire mourir quelqu'un? Bien, nous avons là un exemple solennel du gouvernement de Dieu, parce que nous l'obligeons à sévir. Après que le pharaon a endurci son cœur pendant longtemps, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Et il arrive un temps où c'est le bon plaisir de Dieu de châtier quelqu'un parce que ce quelqu'un a manifesté son esprit d'indépendance, d'insoumission, de rébellion pendant longtemps. Mais il est clair que c'est un jugement qui intervient, jugement gouvernemental qui intervient après que Dieu a usé de patience. Nous pourrions pas tirer de ces passages une opinion calviniste qui consiste à dire bien Dieu a destiné les uns à tomber sous sa colère et d'autres à jouir de sa faveur. Il n'en est rien. Dieu a pris plaisir à les faire mourir. Dieu, ici, est intervenu dans le livre de Josué, nous le lisons, ce fut de par l'Éternel que leur cœur fut endurci, comme il avait endurci le cœur du pharaon autrefois. Et endurci leur cœur.
Donc il est bien important de considérer la position d'Israël et la position des nations à ce moment-là. Dans un passage connu de Deutéronome 32, il nous est dit que quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il avait établi les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. En fait, la terre d'Israël, la terre promise, la terre d'Emmanuel est le centre du monde, quelles que soient les occasions que les hommes ont de vouloir faire autrement. Et Dieu a établi la terre de son peuple terrestre comme centre, le nord, le midi, l'est, l'ouest, les points cardinaux en partir de la terre d'Emmanuel comme centre. Et si on recherche en Genèse 10, on se rendra compte que les descendants de Cam sont les nations qui sont mentionnées comme habitants dans le pays de Canaan au moment où le peuple d'Israël est arrivé. Ces nations s'étaient emparées de la terre d'Israël, indûment. En fait, Dieu avait placé les nations autour de son peuple d'Israël comme ça, et il y avait un changement qui s'était opéré par la volonté de l'homme. De sorte qu'en fait, il ne s'agissait pas de déposséder ces nations indûment, il s'agissait simplement de retrouver l'ordre que Dieu avait placé depuis le début. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé, à travers au Jourdain, avant même d'ailleurs, les espions ont produit tout de suite un effet extraordinaire dans le cœur de toutes les nations. Il y a eu une confédération instantanée de toutes les nations contre Israël. On en trouve là, d'ailleurs la mention dans le livre même de Josué, au chapitre 9, premier verset. Lorsque tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne, dans le pays plat, et surtout tout le rivage de la grande mer, jusque vers le Liban, le Hétien et l'Amoréen, le Cananéen, le Phérésien, le Hévien, le Jébusien, eurent entendu ces choses, ils se réunirent ensemble pour faire la guerre à Josué et à Israël d'un commun accord. De sorte qu'en fait, ce n'est pas Josué qui a commencé la guerre, si on peut le dire. Bien qu'il était dans la pensée de Dieu que le peuple soit conquis à travers la force. Ce qui est évidemment quelque chose qu'on ne transpose pas sur le terrain chrétien. C'est les peuples qui s'étaient emparés du territoire d'Israël, du territoire de Dieu. Nous rappelons d'ailleurs que l'héritage est l'héritage de Dieu dans son peuple, puisque la terre appartient à l'Éternel. C'est les peuples qui ont cherché à empêcher Israël de posséder son propre pays, le pays que Dieu lui destinait. Mais il a fallu que Josué réponde, et c'est par la force qu'il était, selon la pensée de Dieu, que Israël reconquiert son pays. À une exception près, les Gabaonites, et la chose remarquable, c'est que dans le passage que nous considérons maintenant, au verset 19 du chapitre 11, les Héviens qui habitaient Gabaon sont mentionnés comme étant une exception. Eux, au lieu d'accepter la guerre et d'accepter le côté de Satan qui est un lion rugissant, ont cherché la séduction. ils ont réussi en fait leur dessein. Ce qu'il y a de triste, c'est qu'il n'y a pas eu l'occasion de guerre contre les Gabaonites, parce que le peuple d'Israël, sans consulter l'Éternel, s'est engagé par serment. Et la première chose à faire pour être fidèle à Dieu, eh bien, c'était de respecter son engagement. Que Saül, plus tard, dans sa bonne volonté pour ce qu'il pensait être le peuple, le bien du peuple de Dieu, a voulu mettre de côté, négliger. Dieu l'a obligé à revenir au serment des princes d'Israël à l'égard des Gabaonites. En fait, dans les deux tristes situations que le peuple a connues juste après la prise de Jéricho, c'est-à-dire d'un côté l'affaire d'Acan et de l'autre côté l'affaire des Gabaonites a eu des conséquences beaucoup plus lointaines, beaucoup plus permanente dans l'histoire du peuple que l'affaire Lacan. Nous avons à faire très attention aux séductions de l'adversaire. S'engager à l'égard du monde, accepter ses séductions, se placer en particulier sous sa protection, c'est en fait renoncer au combat chrétien, et jusqu'où vont les conséquences, Dieu seul le sait.
Dans la Genèse, au chapitre 18, c'est Abraham qui dit, au moment où il intercède, pour les justes qui pourraient se trouver dans Sodome, il dit au verset 25, à la fin du verset, le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Et si nous remontons un peu dans la Genèse, connaissons tous ce passage, je ne fais que le rappeler, c'est au moment où Dieu fait ses promesses à Abraham, au chapitre 15, en lui disant qu'il est son bouclier, sa très grande récompense, et qu'il lui parle de cette semence qui sera comme les étoiles des cieux, eh bien, dévoile à son serviteur Abraham ce que sera l'avenir de ce peuple que Dieu a choisi. Et en particulier, il en vient à dire au verset 16, en la quatrième génération, chapitre 15, verset 16, en la quatrième génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. De sorte que ici, quand il est dit que c'est de par Dieu que leur cœur est endurci, eh bien c'est que pour nous souvenir de cette pensée solennelle, c'est que même si le jugement est son œuvre inaccoutumée, la patience de Dieu a un terme et l'iniquité de ces peuples était venue à son comble.
Ça avait duré au moins 400 ans entre la déclaration que nous venons de lire et les combats dont nous avons la description dans le chapitre. Et l'histoire, l'archéologie ont pu confirmer l'idolâtrie épouvantable et la corruption, les cultes sanguinaires de Canaan qui n'ont peut-être pas eu d'équivalent dans l'histoire de l'homme. Bien que sans vouloir justifier Dieu, c'est une chose qui peut être dans notre pensée en montrant comment l'endurcissement final est arrivé. Ça doit nous parler à tous, dans ce sens que Dieu est patient, et pas seulement envers les incrédules, mais envers chacun de nous, dans les leçons qu'il veut nous apprendre, et que nous pouvons, sur un point ou l'autre, nous endurcir, si nous n'écoutons pas sa voix, nous placer ainsi sous un gouvernement de Dieu. Une chose sérieuse à considérer.
Dans Lévitique 18, il était question de l'Éternel dit, tu ne feras pas passer par le feu, tu ne donneras point tes enfants, pour les versets 21, pour les faire passer par le feu à Moloch. Voilà ce que faisaient les gens des nations qui habitaient dans ce pays et bien d'autres choses horribles. Et au verset 24, vous ne vous rendrez point impurs par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que les nations que je chasse devant vous se sont rendues impures. Et le pays s'est rendu impur, et je punis sur lui son iniquité, et le pays vomit ses habitants.
C'est une expression remarquable. En quelque sorte, le pays, la terre, ne pouvait plus supporter l'iniquité qui se commettait sur elle. Comme un corps qui ne peut pas s'identifier avec ce qui a été incorporé comme une chose qui est tout à fait étrangère, l'expression n'est pas très élégante, mais il vomit ce qui est absolument contraire à ce qu'il peut supporter. Le pays vomissait ses habitants. Et l'expression soulignée par notre frère a répété au verset 28,
à l'égard d'Israël, surtout ne limitez pas cet exemple abominable, afin que le pays ne vous vomisse pas quand vous l'aurez rendu impur. Et hélas, nous le savons bien, le pays a vomi Israël aussi. Quelques centaines d'années plus tard, ils ont dû s'en aller refaire le chemin inverse de celui d'Abraham leur père. Si Abraham les avait rencontrés, que l'aurait-il dit? Mais mes chers enfants, où allez-vous? Ils auraient dû répondre, les fidèles au milieu d'eux auraient dû répondre, eh bien le pays nous a vomi.
Après la victoire sur Jéricho, Dieu avait dit que cette ville était maudite. Et nous savons qui a rebâti Jéricho. Yael, le Bethélite, un homme d'une ville qui portait le nom de la maison de Dieu. Il semble, d'après les témoignages d'histoire, que effectivement cet homme a fondé les murailles de la ville rebâtie sur le corps de son fils, ce qui était exactement les abominations que commettaient les nations. De sorte que si Dieu, à un moment, a endurci le cœur des nations pour les détruire, eh bien, il peut arriver aussi que Dieu endurcisse gouvernementalement le cœur d'un de ses enfants. C'est d'Éphraïm qu'il est dit dans Osée qu'Éphraïm avait des cheveux gris qui parsemaient sa tête et il ne le savait pas. Éphraïm s'est endurci, laisse-le faire. Et c'était à donner aux idoles, laisse-le faire. Il n'y a rien de plus triste dans la vie d'un chrétien que de penser que Dieu, pour un temps, puisse nous abandonner à nous-mêmes. C'est ce qui explique les défaillances dans les assemblées. Il suffit que le Seigneur nous perde, nous abandonne volontairement pour un temps pour nous apprendre quelque chose que nous n'avons pas voulu apprendre dans la communion avec lui, pour qu'un désastre arrive dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un frère. On a vu des choses dans la vie des frères, qu'on voit difficilement même dans le monde, quelquefois des situations tellement épouvantablement inextricables, on se demande comment ceux qui ont connu la vérité peuvent descendre aussi bas. Eh bien, c'est ce qu'il faut pour que nous apprenions ce qu'il y a dans notre cœur. C'était la grande leçon du désert, apprendre ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu, et apprendre aussi ce qu'il y a dans notre cœur, que Dieu nous garde et nous amène à cet esprit d'obéissance pour que nous apprenions dans le secret, avec lui, dans l'obéissance, ce que nous n'aurons pas à apprendre dans les chutes, les larmes et loin de lui.
Est obligé de dire à la Odyssée quant à ses affections. Tu n'es ni froid ni chaud. C'est un constat que le Seigneur préfère et la conséquence en est là. Je vais te vomir de ma bouche.
La vie chrétienne doit être une vie de victoire. À celui qui vaincra, avons-nous tant de foi dans l'Apocalypse? Avec des promesses faites au vainqueur de cette Église. La vie chrétienne est une occasion de remporter des victoires. Le Seigneur dit justement à la Odyssée, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il est le vainqueur et il veut que les siens soient des vainqueurs. Quelles sont les victoires que nous avons à remporter essentiellement? Comment se remporte une victoire pour un jeune chrétien, par exemple, pour un enfant, il y a des enfants ici, comment est-ce qu'on peut être vainqueur? Et bien souvent par un tout petit mot, il faut savoir dire le petit mot non. Savoir refuser quelque chose qu'on vous propose. Nous avons dans les proverbes, je ne sais pas si les pêcheurs veulent t'inciter à mal faire, ni à qui est-ce pas. Savoir dire non. Savoir refuser de faire comme tout le monde. C'est souvent difficile de ne pas suivre une foule, un entraînement. On se fait remarquer, on se fait souvent moquer de soi. Savoir dire non. Voilà une vraie victoire. Victoires qui sont à la portée de chacun. Il ne faut pas penser que les victoires du chrétien, c'est seulement celle d'un Épaphras, du combat pour une assemblée. Pas seulement avoir à affronter des foules, des puissances extérieures, mais il y a des petits refus de tous les jours connus du Seigneur seul, mais qui ont son approbation et qui sont de grandes victoires à ses yeux.
de la guerre. Le verset bien connu dans 1 Pierre chapitre 2. Bien-aimé, verset 11. Je vous exhorte, comme forains et étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme. C'est une guerre, c'est une... Donc, ces convoitises charnelles sont prévues comme des ennemis. Eh bien, c'est le nom qui parlait là. Ayant le bon vide honnête parmi les nations. Et le témoignage en sera heureux et il sera forcera les hommes à glorifier Dieu par cette victoire. Alors, savons que l'apôtre, lui, était un homme victorieux, plus que vainqueur par celui qu'il avait aimé, en Corinthiens 13. Mais nous avons aussi d'autres expressions dans 2 Corinthiens 2. Or, grâce à Dieu, verset 14, qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ, et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Voilà un homme qui connaissait les victoires. Et dans 1 Corinthiens 15 aussi, après que soit fait mention l'annulation de la mort qui est engloutie en victoire, eh bien, verset 57, mais grâce à Dieu qui nous donne la victoire au nom de Seigneur Jésus-Christ. Donc, que personne ne dise qu'il est trop faible, qu'il ne pourra jamais y arriver. C'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit Zacharie. Et dans ce passage que je cite dans Zacharie, il est question de montagnes, de hautes montagnes, qui seront aplanies comme une terre.
Longtemps la guerre a tous ces rois-là, et tout à l'heure vous a rappelé que tant que nous serons ici-bas, bien nous avons des combats à mener avec des ressources données de Dieu, qui sont pleinement suffisantes, mais il ne faut pas penser que c'est ici un lieu de repos. Et très souvent, quand l'ennemi, par la grâce de Dieu, a été repoussé, eh bien, nous pouvons nous attendre à ce qu'il revienne rapidement à la charge. Cela aussi, il faut peut-être nous en souvenir. Je pensais à un passage frappant dans la vie de David, n'est-ce pas ? Au chapitre 21 du deuxième livre de Samuel, sans rentrer dans le détail, il dit au verset 15, il y eut encore une guerre des Philistins contre Israël. Et David descendit et ses serviteurs avec lui se battirent avec les Philistins. Et David était fatigué. C'est dans cette circonstance que nous trouvons, n'est-ce pas, ce Jishi Benob qui était un des enfants du géant. Souvenons bien qu'au début de sa carrière, par la foi, David avait défait Goliath. Et bien ici, David, on peut dire, est arrivé presque à la fin de sa vie. Et en quelque sorte, Satan, sous les traits de ce fils, de cet enfant des géants, est encore là, et il pense frapper David, qui est secouru d'ailleurs. Mais, vous voyez, dans le même paragraphe, nous trouvons au verset 18, « Et il arriva après cela qu'il eut encore un combat contre les Philistins. » Et plus bas encore, verset 20, et il y eut encore un combat à Gath. Et bien cela est pour chacun de nous un avertissement que le Seigneur nous donne. Tout à l'heure, nous pourrons connaître le repos. Il reste un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Mais ici-bas, c'est le combat. Dieu soit béni. C'est le Seigneur, comme on le chante dans un cantique que nous connaissons certainement tous. C'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Pour nous, la seule à faire, c'est de nous trouver dans sa présence, dans sa compagnie, et de nous appuyer pleinement sur lui. Comme disait d'ailleurs David à quelqu'un ailleurs, n'est-ce pas, demeure près de moi, à bien tard. Et il disait, demeure près de moi, celui qui cherche ta vie, cherche ma vie, près de moi, tu seras bien gardé. C'est vrai pour chacun de nous. Nous ne sommes en danger que dans la mesure où nous laissons une distance se faire entre le Seigneur et notre âme.
2 Corinthiens 6, ce qu'est ce combat et ce témoignage. Quel tableau impressionnant quand nous l'entendons ainsi nous dire, n'est-ce pas, dans combien de circonstances et de détails il lui a fallu regarder au Seigneur pour être fidèle. Et c'était précisément ce qu'il avait à cœur, c'était de se recommander comme serviteur de Dieu, verset 4. Et il dit un peu plus loin, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice de la main droite et de la main gauche, dans la gloire et dans l'ignominie, etc. Qui est suffisant pour ces choses? L'apôtre avait vraiment à cœur de vivre à Christ. Et c'est certainement ce qui a fait toute sa consolation. Quand il était dans cette prison, à quelques instants, n'est-ce pas, de donner sa vie pour le Seigneur, je sers déjà de libération, dit-il, mais nous l'entendons me dire ceci en 2 Timothée 4, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et c'était là tout son bonheur.
Connaissant le chapitre 14 de la Genèse, nous trouvons ces exemples de combat et d'efforts successifs de l'ennemi pour lui enlever sa bénédiction. Il y a beaucoup de rois dans ce chapitre. 5 rois qui combattent contre 4. C'est Abraham qui est vainqueur avec son Dieu. Et puis au moment où il a remporté la victoire, voilà le roi de Sodome qui s'avance. On aurait pu penser que ce roi avait disparu quelques versets précédemment. Enfin, au verset 10, il nous est dit qu'il était tombé, le roi de Sodome était tombé dans un puits de bitume. Mais non, le voilà. Et Satan ne le désarme pas, on le retrouve toujours. Mais cette fois, avec le caractère du serpent, il vient proposer à Abraham tous les biens. Et là, Abraham est vainqueur, une victoire plus grande que celle qu'il a remportée précédemment. Il est vainqueur justement parce qu'il sait dire non. Il s'est refusé. Il a été précédemment encouragé, réconforté par Melchizedek. La force d'en haut lui est parvenue. Et par cette force-là, il a été vainqueur. Une victoire plus grande, remportée sur le roi de Sodome, le séducteur.
Se souvenir que le secret de la victoire, c'est dans notre cœur, qu'il se décide en fonction de notre état moral. Les ennemis sont toujours les mêmes. Les ennemis reviendront, les problèmes se poseront, les exercices continueront jusqu'à la fin. Nous aurons des victoires ou des défaites suivant que effectivement les armes de la main gauche et de la main droite seront l'arme du chrétien. Le bouclier de la foi, la confiance objective en Dieu et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'arme offensive dans la main droite, l'arme défensive dans la main gauche. Et pour des circonstances égales, à un moment ou à un autre de notre vie, pour des circonstances comparables d'un chrétien à un autre, ce sera ou la victoire ou la défaite, suivant qu'effectivement, nous serons effectivement en communion avec le Seigneur Jésus. Nous nous défierons nous-mêmes et nous ferons appel aux ressources de Dieu. L'histoire de David, notre frère, a dit quelque chose tout à l'heure, est extrêmement instructive. Dans les moments les plus beaux de sa vie, où il a manifesté le plus de noblesse de cœur, en particulier à l'égard de Saül qui cherchait sa vie, il semblait que les circonstances étaient orientées pour que David puisse se venger et régler le cas de Saül. Il n'a non seulement jamais voulu le toucher, mais même son cœur l'a repris à un moment lorsque sa conscience ne lui reprochant rien, il s'était allé à couper le bord du vêtement de celui qui voulait sa vie. Et bien, juste après, immédiatement, David dit dans son cœur, je m'en vais et je pars aux Philistins. Je pars dans le pays des Philistins. Et on trouve le serviteur de Dieu, loin d'Israël, le doux psalmiste d'Israël, qui proteste de sa bonne foi auprès d'Akish, roi de Gath, pour ainsi dire, aller au-devant des désirs du roi des Philistins pour combattre lui, roi rejeté, contre le peuple qui était aux mains de Saül. Jusqu'où pouvons-nous tomber lorsque nous oublions ce que nous sommes? Quelqu'un a dit que la foi s'épuise par un effort extraordinaire. Et recherché dans de très nombreux exemples dans l'Ancien Testament, il est rare qu'un homme de foi ait remporté 2 victoires éclatantes coup sur coup. On s'épuise. il n'y a que dans le camp Christ qu'il y ait eu cette égalité parfaite. Christ était aussi merveilleusement parfait et égal à lui-même au désert qu'il l'a été dans toutes les circonstances, n'importe où. Un cœur ouvert à écouter toutes les misères des plus pauvres femmes, des personnes qui étaient dans la détresse. Il rencontre les pharisiens et qui a pu supporter la flétrure de sa répréhension, la fissure de sa répréhension. Il était égal à lui-même, toujours parfait. Nous, nous sommes évidemment avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais le secret pour nous, c'est bien effectivement de nous méfier de nous-mêmes et de laisser Christ agir en nous.
Un exemple remarquable de sa vie. Ton serviteur, 1 Samuel 17, dit-il à Saül, ira et combattra contre ce Philistin. Saül ne trouve pas d'autre armure à confier à David que un casque d'airain, une cotte de maille, une épée par-dessus pour donner à David tout ce qu'il y avait de meilleur dans l'arsenal humain. Mais nos armes ne sont pas chargées. Et David dit à Saül, je ne puis marcher avec ces choses. Cette armure dont je suis affublé, sans doute si impressionnante au point de vue de l'homme, pour moi, elle est un fardeau. Je ne puis marcher avec ces choses. Et David va prendre son sac de berger, placer sa fronde avec quelques pierres lisses que le torrent a usées. Et il dira au géant, viens-moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Je n'ai pas d'autre arme que de me présenter au nom de l'Éternel des armées. Toi, tu as outragé les armées d'Israël, bien, tu vas savoir que ce n'est, retenons bien l'expression, que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille est à l'Éternel. Et David, avec sa fronde et une seule pierre, fut plus fort que le géant avec l'armure en laquelle il se confiait. David, avec une fronde et une pierre, et l'Écriture, 1 Samuel 18, verset 50, une fronde et une pierre, plus fort que le Philistin, c'est-à-dire le géant, et il le frappa et le tua. Nos armes sont puissantes par Dieu. Je ne puis marcher avec ces choses, les armes humaines, si bien affûtées qu'elles soient, si bien ajustées qu'elles soient, ne nous conduisent à aucune victoire. C'était un embarras, une charge pour David. Mais la pierre que l'Éternel avait préparée dans le torrent, quand je suis faible, alors je suis fort.
Un psaume qui met, semble-t-il, vraiment l'accent sur l'importance de l'état intérieur, de l'état de notre cœur, n'est-ce pas le psaume 59. Dans ce psaume de David, nous savons que l'entête nous dit quand Saül envoya et qu'on surveilla sa maison afin de le faire mourir. Il semble, dans cette circonstance extrême, que David est vraiment à bout de ressources. Les ennemis sont là et il dresse des embûches contre sa vie. Les hommes forts sont assemblés contre lui. Ils reviennent, comme il dit au verset 6, ils reviennent le soir, ils hurlent comme un chien et font le tour de la ville. Alors, nous voyons ici, de façon pratique, où David trouve ses ressources, eh bien c'est dans sa communion en Dieu. On peut dire au verset 8, « Mais toi, Éternel, tu te riras d'eux. Tu te moqueras de toutes les nations. À cause de sa force, je regarderai à toi, car Dieu est ma haute retraite. Le Dieu qui use de bonté envers moi me préviendra. » Et il semble qu'il n'y a aucune délivrance visible. Et il en est souvent ainsi dans notre vie. Un peu comme il est dit dans l'Épître aux Corinthiens. Il n'y a aucune tentation qui vous est survenue, au chapitre 10, qui ne soit une tentation humaine. Mais en même temps, il est dit, avec la tentation, il fera aussi l'issue. C'est-à-dire que, il me semble, du moins, la tentation, n'est-ce pas, n'a plus sa force sur mon âme. La
avec la tentation étant aussi ici, afin que vous puissiez la supporter. Les ressources sont données de Dieu, les ennemis sont toujours là, le combat ne cesse pas. Même David ici peut dire, ils reviendront de soi, ils hurleront comme un chien, ils feront le tour de la ville. Mais sa foi a rencontré ces circonstances, il s'est confié en Dieu, et on peut dire que déjà la louange est dans son cœur. Il est déjà, on peut dire, un vainqueur. Un vainqueur qui rend grâce à Dieu, qui reconnaît que la victoire, eh bien, elle est toute de Dieu. Et c'est ainsi que l'on peut faire partie à des faits des vainqueurs. On peut dire que les exemples qui sont devant nous cet après-midi, en particulier avec Caleb, ont ce caractère-là. Ce sont des hommes qui se sont entièrement confiés en Dieu.
Encore une pensée en rapport avec le cas de David avec le Philistin. Le Philistin a été frappé par la pierre lisse lancée par la fronde. Ensuite, David est venu et a pris l'épée du Philistin parce que lui n'avait point d'épée en sa main. Et Hébreux 2 nous dit que c'est une merveilleuse figure de ce que Christ a fait par la mort. Il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. L'épée de Goliath est donc ici une figure de la mort de Christ. Mais lorsque, ensuite, David, roi rejeté, était dans le désert, juste au moment où, à la caverne d'Adullam, Abiathar est venu le retrouver, parce que Doeg, le chef des bergers de Saül, avait mis à mort 85 hommes portant les fautes de lin, David n'avait point d'épée. Il en a demandé une, il a demandé des armes au prophète, au sacrificateur. Et il lui a dit, voilà, l'épée de Goliath est derrière, enveloppée, derrière les fautes, prends-la. Et David a dit, il n'y en a point de pareil. Voilà notre Gilgal maintenant. C'est l'application aux activités intérieures de la chair en nous de la mort de Christ dans les mouvements intérieurs du cœur. C'est ainsi que se produira le secret de nos victoires.
Jacques nous apprend que nous faillissons tous à plusieurs égards pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure. Il n'y a point d'homme qui ne pêche. Et un de nos devanciers faisait remarquer justement en ce qui concerne Josué dans le chapitre 5 au verset 13 que nous avons vu ce matin, lorsque l'homme se tient devant lui, son épée nue à sa main, Josué pose cette question aiguë pour nous, pour nos ennemis. Et ce frère faisait remarquer que si Josué, dans cette occasion, avait été en communion avec Dieu, il n'aurait pas posé cette question. Il aurait compris que Dieu était là, lui-même, n'est-ce pas, pour combattre les combats du peuple.
On a parlé de l'épée de Goliath. On peut trouver aussi un enseignement dans son bouclier. Il le faisait porter par un autre homme. La question de celui qui portait son bouclier. Et voilà une chose à ne pas faire. Les questions des armes de la main droite et de la main gauche. Et la main gauche, c'est donc l'arme défensive. Porter soi-même notre bouclier, ne pas nous abriter derrière les efforts d'autrui. Il est certain de penser que, humainement parlant, la défaite de Goliath est due au fait que ce n'est pas lui-même qui a été en mesure de se protéger de la pierre, c'est un homme qui portait son bouclier. Pour nous, oui. Yes, money.